Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce jeudi 12 août 2021. J'ai le plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Saïd Khatibzadeh, a exprimé les sincères condoléances de l'Iran au gouvernement et au peuple algérien, en particulier aux familles des victimes de ce tragique incident, et a souhaité un bon rétablissement aux blessés. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce jeudi 12 août, après le décès d'un homme de citoyens parmi les civils et militaires suite aux incendies qui ont ravagé quelques wilayas du pays, indique mercredi un communiqué de la présidence de la République. Pompiers, militaires et civils luttent encore mercredi contre la course folle d'incendies meurtriers en Algérie. Les flammes ravagent depuis lundi plusieurs régions de Kabylie, notamment Tizi Ouzou. Ces multiples incendies ont fait au moins 69 morts. Au moins 28 soldats et 37 civils ont péri dans ces incendies qui ont débuté lundi soir en Kabylie, notamment dans la région de Tizi Ouzou, selon des bilans officiels. En fin de journée, mercredi 11 août, l'agence officielle APS a fait état de 4 autres morts, sans dire qu'il s'agissait de civils ou de militaires. Des appels ont été lancés sur les réseaux sociaux pour trouver des personnes disparues. 20 étaient toujours recherchées mercredi, selon le site d'information francophone, tout sur l'Algérie. Les conflits qui ont éclaté dans différentes parties de l'Afghanistan au cours de la semaine dernière ont poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir leur foyer, a indiqué mercredi 11 août le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Le bureau a précisé que ces personnes font partie des quelques 390 000 personnes déplacées par les hostilités cette année, avec un pic massif depuis mai. La plupart des personnes déplacées ont fui vers Kaboul et d'autres grandes villes. La plupart des personnes déplacées dans la capitale sont hébergées par des familles ou des amis, mais un nombre croissant d'entre elles campent en plein air, ce qui les rend plus vulnérables. Plus de 5 800 personnes déplacées arrivées à Kaboul entre le 1er juillet et le 5 août avaient besoin de nourriture, d'articles ménagers, d'eau, d'assainissement et d'autres formes d'assistance. Mercredi, 10 équipes humanitaires ont évalué les besoins des personnes séjournant à l'extérieur dans des parcs et autres espaces ouverts et ont identifié 4 522 personnes déplacées supplémentaires manquant d'abri, de nourriture, d'installations sanitaires et d'eau potable, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Les humanitaires ont déclaré qu'ils avaient l'intention de rester malgré l'intensification des hostilités pour apporter leur aide, mais cela dépend de la sécurité du personnel, des obstacles bureaucratiques et de la collecte de fonds supplémentaires. le Fonds de réponse humanitaire pour l'Afghanistan, doté d'1,3 milliard de dollars américains, n'est financé qu'à 38%. En Syrie, les forces d'occupation turques et les réseaux terroristes soutenus par elles ont attaqué à l'artillerie de vastes zones dans la banlieue nord d'Alep, causant des dégâts dans les maisons des habitants, leurs biens et les vergers agricoles. Des sources locales de la banlieue nord d'Alep ont fait savoir à Sana, l'agence de presse officielle syrienne, que les forces d'occupation turques et les terroristes qui y sont liés avaient bombardé violemment les deux villages de Sad al-Shahba et Smouka dans la banlieue nord d'Alep et les villages de Mayassa, Boujalras et Mirenaz dans la banlieue nord-ouest Afrin. Ces sources ont fait noter que l'attaque avait provoqué un état de panique et de peur et causé des dégâts matériels dans les maisons, les biens et les vergers des habitants. Le président de la Commission de la coopération et des affaires internationales de la Douma russe, Leonid Slutsky, a noté que le déploiement des systèmes de défense antimissiles américains en Ukraine pourrait modifier l'équilibre de force dans la région. En effet, le parlementaire russe a réagi aux propos du vice-premier ministre ukrainien Alexei Reznikov, selon lesquels l'Ukraine pourrait accueillir des systèmes de défense aérienne des États-Unis. Leonid Slutsky a qualifié les spéculations du vice-premier ministre ukrainien de provocation grossière en affirmant que le déploiement de telles forces en Ukraine ne se fera pas sans les représailles de la Russie. Il est regrettable que les lois de l'Ukraine permettent de la priver de ce qui reste sa souveraineté et à ses citoyens d'une chance de vivre en sécurité. Les politiciens ukrainiens sont prêts à sacrifier tout cela pour prolonger leur participation au projet anti-russe, a regretté le président de la Commission de la coopération et des affaires internationales de la Douma russe. Au moins 15 civils ont été tués lors d'une attaque dans l'ouest du Niger. Après la mort de 33 personnes fin juillet dans le département de Bani Bangou, ouest du Niger, près du Mali, nouvelle attaque vient de frapper cette zone. Lundi, aux environs de 14 heures, des individus armés non encore identifiés ont mené une attaque contre un village du département ciblant des populations travaillant dans un champ et qui s'est soldé par la mort de 15 personnes et deux autres blessés, rapporte le ministère nigérien de l'Intérieur dans un communiqué mercredi 11 août. Le département de Bani Bangou se trouve dans la région de Tillaberi, zone dite des trois frontières entre Niger, Burkina Faso et Mali, théâtre depuis des années d'actions sanglantes de groupes terroristes liés à Al-Qaïda et à l'organisation terroriste Daesh. Le 25 juillet, 14 civils avaient été tués dans le village de Vié, et trois jours plus tard, le 28 juillet, 19 personnes avaient été massacrées dans le village de Diye Koukou, dans le même département de Bani Bangou, selon les autorités. Les assaillants étaient venus en moto et certaines victimes avaient été froidement abattues alors qu'elles travaillaient dans leur champ, d'après des témoins. Après ces deux attaques, le ministère nigérien de l'Intérieur a assuré mercredi que des dispositions sécuritaires et sanitaires étaient renforcées dans la zone et qu'une enquête avait été ouverte pour retrouver les auteurs de ces tueries. Human Rights Watch a rappelé que plus de 420 civils avaient été tués depuis le début de l'année dans l'ouest du Niger dans des attaques menées par des groupes terroristes qui ont également contraint des dizaines de milliers de personnes à fuir. Le président kényan Uhuru Kenyatta a appelé mercredi à rehausser le statut de la Commission conjointe de coopération Kenya-Afrique du Sud afin de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. M. Kenyatta, qui s'est exprimé à Mombasa lors d'une réunion virtuelle avec la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, a souligné « Nous devons approfondir notre collaboration politique et réfléchir à la manière de partager nos idées et notre expérience avec le reste du continent ». Au cours de la réunion, le dirigeant kényan a notamment proposé un partenariat commercial entre Kenya Airways et South African Airways pour dynamiser le secteur de l'aviation. Parmi les domaines auxquels les deux pays doivent accorder la priorité, M. Kenyatta a notamment évoqué ceux du commerce et de la collaboration politique. Il a également encouragé le Kenya et l'Afrique du Sud à partager leurs expériences et leurs réussites avec le reste du continent africain. Pour sa part, Mme Bader s'est déclarée convaincue que la coopération dans laquelle les deux pays se sont engagés conduirait à une amélioration des relations bilatérales. Elle a convenu avec M. Kenyatta que les deux pays disposaient d'une importante expérience dans un large éventail de domaines et se devaient de la partager avec le reste du continent. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'Iran a présenté ses sincères condoléances au peuple et au gouvernement algérien en deuil de 3 jours décrété par le président algérien après le décès d'un nombre de citoyens parmi les civils et militaires suite aux incendies qui ont ravagé quelques régions algériennes. Des dizaines de milliers de personnes fuient la violence en Afghanistan et au moins 15 civils ont été tués lors d'une attaque dans l'ouest du Niger. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Comment Israël a liquidé l'Arabie? Depuis qu'Abdallah II de Jordanie a été intronisé roi préféré de Biden au Moyen-Orient, au point de louer pour 15 ans le ciel, la terre et les mers aux Marines, Ben Salman se fait de moins en moins parler de lui. Riyad est-il tombé dans un méga piège qui lui a tendu dès 2015 Israël, quitte à le priver de sa place centrale au sein du monde de l'islam? Le deuxième piège aura été ce projet fou Neom, tiré sur les comètes, engloutissant les pétrodollars saoudiens au profit d'Israël. L'Arabie saoudite de Mohammed Ben Salman savait dès le début qu'elle devait satisfaire le lobby sioniste pour bénéficier du soutien américain. Dans un article publié vendredi 26 juillet 2019, le quotidien américain The Wall Street Journal révèle les contours de Neom. Les investissements injectés dans l'économie saoudienne devraient atteindre 12 000 milliards de rials d'ici 2030. Ce montant inclut 3 000 milliards de rials, environ 800 milliards de dollars, 682 milliards d'euros, provenant du Fonds d'investissement public saoudien. 24 des plus grandes entreprises saoudiennes, dont la pétrolifère Aramco, vont également contribuer à hauteur de 5 000 milliards de rials, 1,13 milliards d'euros. Ces sociétés ont accepté de baisser leur niveau de dividendes afin de rediriger cet argent vers l'économie domestique en échange d'incitations financières. S'il est entièrement construit, Neom pourrait être le prochain Dubaï. Évidemment, il y a eu tout un fond politique à ce sujet. Suite aux confins de l'Arabie saoudite, là où la mer Rouge rencontre l'Égypte, il s'agissait de renforcer géopolitiquement Israël. En 2017, le quotidien israélien, le Jerusalem Post, a rapporté que bien que les entreprises israéliennes ne puissent pas prendre part au projet ouvertement, des discussions d'un milliard de dollars sur des contrats ont été menées avec le Fonds d'investissement public saoudien. Cette opportunité sans précédent a appelé à une alliance collaborative qui s'est développée rapidement sous le roi Salman. Mais cela a été également critiqué. En 2016, le prince dissident saoudien Khaled bin Farhan al-Saoud a publié une vidéo affirmant que donner à Israël un rôle dans Neom et normaliser les liens avec Tel Aviv étaient des conditions américaines et israéliennes pour que Mohammed bin Salman s'assure de son soutien à la récente couverture médiatique occidentale du nouveau processus de compromis israélo-palestinien. Sauf qu'en 6 ans de règne, MBS a fait de l'Arabie une puissance subalterne au service des intérêts d'Israël. Sous prétexte d'avoir à combattre l'Iran chiite, Israël colonise l'Arabie. Aux dernières nouvelles, l'Arabie saoudite prononce des peines de prison contre des Palestiniens accusés de soutenir la résistance palestinienne. Il y a quelques jours, l'Arabie saoudite a prononcé des peines de prison contre 69 Palestiniens avec un maximum de 22 ans et un minimum de 3 ans pour soutien à la résistance palestinienne. Le tribunal saoudien a ordonné que l'ancien représentant du mouvement de la résistance islamique de la Palestine, le Hamas, soit emprisonné pendant 15 ans dans le royaume. En Arabie Saoudite, la nation n'est pas autorisée à soutenir la cause palestinienne, même un seul jour. Par conséquent, toutes les manifestations prévues à cette fin seront réprimées. C'est ce qu'a déclaré le leader du mouvement populaire et de l'opposition saoudienne, Hassan al-Saleh. Selon al-Saleh, après la fin des manifestations, tous ceux qui y ont participé sont convoqués et s'engagent à ne plus participer et des détenus sont derrière des barreaux en Arabie Saoudite pour avoir manifesté en faveur de la cause palestinienne. Quant à l'arrestation de Mohamed al-Rezi par les autorités saoudiennes, Hassan al-Saleh a déclaré « Al-Rezi a été arrêté afin de faire pression sur les Palestiniens pour qu'ils abandonnent leur cause et suivent le projet américano-saoudo-israélien et quittent l'axe de la résistance. » Il a également expliqué que le régime saoudien n'a pas de loi, mais plutôt des dispositions déterminées par le roi et la situation qui prévaut. Nous sommes désormais en face de deux axes, un axe de résistance et celui de normalisation. Par conséquent, le soutien à la cause palestinienne en Arabie Saoudite est un crime dont les partisans seront punis, a-t-il dénoncé. L'Arabie, à titre de boussole du monde arabe, n'existe plus.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission, des débats. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder des récents événements qui se sont passés dans les relations entre l'Iran et les États-Unis, également entre l'Iran et certains pays européens. Si vous avez suivi ces derniers jours l'actualité, vous en êtes rendu compte que ces derniers jours, les États-Unis et certains pays européens, très particulièrement la Grande-Bretagne et aussi le régime sioniste, ont orchestré une campagne d'intoxication sans précédent contre l'Iran, en avançant des accusations sans fondement contre ce pays en ce qui concerne cette attaque qui avait été menée tout récemment contre un navire dans la mer d'Oman. C'est dans ce cadre que les Américains ont tout fait pour obtenir une condamnation de l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU, des mêmes sons de cloche à Londres, où les autorités britanniques ont avancé des accusations sans fondement contre l'Iran, et le régime israélien aussi, comme toujours, a essayé de faire chanter, si vous voulez, les États-Unis et les pays des Européens. Et dans ce contexte, il y a eu cet entretien téléphonique entre le président iranien Ibrahim Raisi et son homologue français Emmanuel Macron. Ensuite, il y a eu cette réaction du côté des autorités militaires iraniennes qui ont mis en garde contre toute agression contre l'Iran qui recevra une réponse cuisante de la part de l'Iran. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission deux invités. J'ai avec moi pour cette émission depuis Moscou un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Mikhail Egorov. M. Egorov, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité.
Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation, M. Egorov. J'ai également en ligne avec moi pour cette émission un analyste politique et spécialiste des questions internationales, M. Pierre Dortiguier, depuis Toulouse. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, cher M. Neurostine, bonjour à tous vos auditeurs et à votre invité, M. Mikhail Egorov, à Moscou.
Merci beaucoup. Monsieur Dortiguier, on va commencer avec vous, l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet, cette campagne d'intoxication orchestrée contre l'Iran, ces tentatives du côté américain, britannique et israélien pour en fait obtenir une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU contre l'Iran. Comment vous l'expliquez, Monsieur Dortiguier ?
Eh bien, il s'agit là d'abord d'une manœuvre de fond, une manœuvre, disons, d'intimidation de l'Iran et par une sorte de bluff tout à fait comparable à ce qui s'était produit il y a très longtemps, si je remonte à la fin du 19e siècle, quand les Américains ont attaqué, ont prétendu qu'un de leurs navires avait été attaqué en rade de la Havane. Vous savez ce qui avait été donné comme prétexte, l'invasion de Cuba. Ce sont des procédés, disons, de chantage, ce sont des pièges, disons, pour l'opinion publique. Ils ont pris comme prétexte, bien sûr, vous le savez, l'incendie à bord de ce bateau tenu par un milliardaire, disons, il va et bien dans le bâtiment, je crois, dans le... Et donc, ceci a fait chauffer une atmosphère, disons. Je reconnais que le ministre des Affaires étrangères britannique, Raab, a été vraiment très violent contre l'Iran. Et donc, il s'agit à notre avis, mais ce n'est pas un avis personnel. Je crois que c'est un avis qui est partagé par beaucoup de gens, disons, indépendants, que nous avons affaire donc à un piège. Un piège pour pouvoir intimider l'Iran. C'est surtout cela, voyez-vous. C'est-à-dire faire en sorte que, dans les négociations qui vont venir, l'Iran ne défende pas ses propres intérêts, car au lieu qu'il puisse parler, au lieu que votre pays puisse parler, il est déjà intimidé, disons, par un concert de voix qui menace de le traîner devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, etc. Mmh. Tout ceci, disons, est un mauvais jeu, mais malheureusement, un jeu qui se dans l'histoire, disons, est, si je puis dire, régulier. C'est-à-dire qu'il s'agit là véritablement d'un procédé de stupéfaction, vous voyez. Naturellement, nous savons que l'Iran résiste à cela. Mais notre opinion publique est évidemment sidérée aussi. Et je crois que ceci a influé peut-être l'énervement. Enfin, je n'ose pas dire l'énervement, mais disons un certain ton dans la conversation avec le président de la République iranienne, de notre président de la République.
Monsieur Dorsiguier, on va y revenir en fait. On va revenir sur cet entretien téléphonique entre le président Raïssi et son homologue français Emmanuel Macron. On va y revenir en fait plus tard dans le cadre de cette même émission également. Monsieur Egorov, vous venez d'entendre les explications de monsieur Dorsiguier. Comment expliquez-vous en fait cette multiplication des pressions contre l'Iran dans l'état actuel des choses, ce recours, si vous voulez, au langage de menace contre de ce pays? Comment peut-on en fait interpréter une telle approche adoptée ces jours-ci par les Américains, les Britanniques et très particulièrement les Israéliens?
Oui, je pense que ce que M. Dorsiguier a dit est très juste. Je rejoins entièrement ce qu'il a dit et je le salue également par la même occasion. Je pense qu'effectivement, il s'agit d'une tentative évidente d'intimidation vis-à-vis de l'Iran, une tentative de chantage. Ceci étant dit, j'ajouterais certainement que je pense que c'est aussi une tentative de mettre une pression supplémentaire sur l'Iran, sur la République islamique d'Iran, dans le cadre des négociations qui sont menées par rapport à l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, sachant que l'Iran jusqu'à maintenant a fait preuve d'une inflexibilité impressionnante. Et d'autant plus que ce n'est pas une inflexibilité illogique, au contraire, c'est une défense de ses intérêts dans le cadre d'un accord qui a été violé par une seule partie, à savoir les États-Unis d'Amérique. Et donc l'Iran a émis des conditions que les Américains ont beaucoup de mal à accepter jusqu'à maintenant. Et donc cette nouvelle attaque qui vise l'Iran, effectivement, je pense qu'on peut le voir aussi dans le sens de mettre une pression supplémentaire de l'Iran dans le cadre de ce dossier. Il y a aussi un autre point qui je pense n'est pas étranger à cette affaire, c'est le fait qu'aujourd'hui on assiste à une montée non seulement en puissance de l'Iran sur la scène régionale et internationale en tant que grande puissance géopolitique, en tant que grande puissance civilisationnelle, qui a une influence qui n'est plus à démontrer aussi bien dans le cadre régional, à la région à laquelle l'Iran appartient, mais aussi de plus en plus dans le cadre réellement international, et aussi parce que l'Iran, les positions de l'Iran, son prestige, sont de plus en plus et devient de plus en plus évident au sein de l'opinion publique internationale. Je pense qu'aujourd'hui, l'Iran, avec d'autres puissances majeures du monde, qui sont des puissances non occidentales et des partisans résolus du monde multipolaire, on voit bien que le positionnement de l'Iran aujourd'hui trouve un écho très favorable, de plus en plus favorable, au sein d'une large frange de l'opinion publique internationale, y compris même dans les pays occidentaux. Cela inquiète très fortement l'establishment de l'Occident et bien sûr ses autres alliés en entamant la qualité du régime sioniste. Et je pense que tous ces éléments font qu'ils sont effectivement en train de chercher chaque... ils ne ratent pas la moindre occasion pour pouvoir faire du chantage à l'Iran, essayer de l'intimider et essayer de le présenter comme un déstabilisateur, même si cette propagande et ces attaques ne marchent pas très bien, aussi bien dans le cadre de l'opinion publique internationale qui ne se laisse plus manipuler. On voit bien qu'il y a un éveil de conscience sans précédent aujourd'hui à l'ère multipolaire au sein de l'opinion publique de pratiquement toutes les régions du monde, et aussi grâce au fait que même au Conseil de sécurité de l'ONU que vous avez mentionné tout à l'heure dans le reportage, dans la présentation, il y a aujourd'hui un bloc qui s'oppose à ces velléités et qui remet les élites occidentales, l'establishment occidental à la place qui est la sienne, à savoir d'une extrême minorité planétaire.
Monsieur Dorsiguiet, Monsieur Egorov vient de faire allusion à cette, si vous voulez, approche ferme de l'Iran au cours des négociations de Vienne. En fait, il a qualifié cette approche de l'Iran d'inflexible et tout à fait logique, parce que l'Iran insiste sur le point que les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord de nucléaire de 2015. Alors, ils devront revenir, si vous voulez, à leurs engagements. Et s'agissant des Européens également, l'Iran, si vous voulez, critique le non-respect de la partie européenne de ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Et s'agissant de cet entretien téléphonique entre le président Raisi et son homologue français Emmanuel Macron, le président Raisi a insisté sur ce même point en disant que voilà, de toute négociation doit garantir les intérêts, les droits, d'ailleurs légitimes, du peuple iranien, M. Dorsiguiet.
Oui, en effet, c'est pour cela que, pour reprendre ce qu'a dit M. Egorov, il ne s'agit pas d'une inflexibilité idéologique de la part de l'Iran, mais peut-on dire d'une inflexibilité juridique. C'est-à-dire, il suffit simplement de rappeler à tout homme de bon sens qu'un accord qui a été conclu n'a été conclu que sur des règles, des faits, disons, qui ont été établis, qui ont été convenus de part et d'autre. Il s'agit naturellement de conserver cet accord qui a donné cet accord de Vienne, les termes de l'accord de Vienne. L'Iran ne fait qu'appliquer les conséquences de cet accord de Vienne. Il demande à ses interlocuteurs de faire de même. Et c'est une affaire très simple. Mais le tapage, ou disons la déstabilisation qui est faite par cet effort de propagande, disons, de ce coup de force, d'ailleurs ne peut durer qu'un temps. C'est-à-dire qu'il n'a que l'effet d'un coup de tonnerre. C'est-à-dire que le coup de tonnerre, une fois passé, évidemment, bon, le ciel continue. Je crois que c'est la même chose. Nous nous trouvons devant des responsabilités. Et dans la conversation entre M. Macron et M. Raisi, évidemment, il était question de cela. Alors, la presse chez nous, je dis ça très rapidement, la presse chez nous n'a voulu retenir que le fait que M. Macron avait mis en garde l'Iran contre toute entreprise de fabrication d'armes atomiques, etc. Mais tout le monde sait qu'il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas du tout de fabriquer une arme atomique pour l'Iran, que ceci d'ailleurs, l'Iran l'a refusé pour des raisons idéologiques, pour des raisons philosophiques, disons religieuses, et que, disons, l'affaire est autre. L'affaire, c'est laisser la liberté à l'Iran d'agir comme il l'entend, de se développer sans qu'il y ait des suspicions. On ne peut pas, évidemment, construire des relations internationales sur des arrière-pensées. En revanche, on doit et on peut construire, il est nécessaire de le faire, d'établir des relations internationales, économiques, financières, etc., qui sont à l'avantage des pays européens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne peut sortir d'une crise, ou tout au moins assurer une bonne santé à l'économie internationale, que si les partenaires agissent en respectant, bien sûr, les règles juridiques. C'est ce que demande l'Iran. Tout autre discours est un discours d'arrière-pensée. C'est un discours, disons, qui n'a absolument aucun caractère sérieux, aucun caractère politique, et bien sûr qui est entièrement immoral.
Monsieur Egorov, vous venez de le dire tout à l'heure dans une partie de votre commentaire, que l'objectif de ces récents agissements anti-iraniens est d'intimider l'Iran, mais ça ne marche pas. Monsieur Egorov, si ça ne marche pas, ce n'est pas parce que sur le plan politique, l'Iran est en position de force. Vous l'avez dit, en fait, cette politique adoptée par l'Iran au cours des négociations de Vienne bénéficie largement du soutien de l'opinion publique internationale. Et sur le plan politique également, l'Iran, en ce qui concerne
concerne, le Conseil de sécurité bénéficie du soutien de deux grands pays, d'ailleurs membres du Conseil de sécurité, à savoir la Chine et la Russie. Et sur le plan militaire également, l'Iran est plus fort aujourd'hui que de jamais. Et les autorités militaires iraniennes ont promis en fait une riposte décuisante à tout aventurisme militaire de la part de quelques pays que ce soit, M. Egorov.
Oui, absolument, absolument. Aujourd'hui, l'Iran se trouve indéniablement en position de force, de par déjà sa conviction idéologique, de par du fait, dont j'en suis convaincu, de la justesse de son approche dans les affaires régionales comme internationales, de son positionnement en faveur du monde multipolaire qui est devenu une réalité. Bien sûr, il y a aussi, c'est un point très important, cette alliance au niveau du triumvirat Chine-Russie-Iran, qui se traduit aussi bien dans la sphère politico-diplomatique que militaro-sécuritaire, à travers des exercices conjoints, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral. Il y a bien sûr aussi cet aspect que j'ai mentionné tout à l'heure de l'opinion publique internationale qui, pour beaucoup, sympathise vis-à-vis de l'Iran, aussi bien dans le dossier concernant le nucléaire iranien, mais aussi sur d'autres questions de l'actualité qui concernent le Proche, le Moyen-Orient et plus généralement sa vision et son approche à l'international. Et vous avez bien fait de mentionner l'aspect militaire, parce qu'effectivement, vous savez que le magazine américain spécialisé sur les questions de la puissance des principales armées du monde, le magazine Global Firepower, a fait le classement pour l'année, il a mis à jour le classement pour l'année 2021. Et il faut savoir que l'Iran est classé tout simplement par ce magazine américain comme étant la 14e principale puissance militaire du monde devant l'entité sioniste, qui, si je ne me trompe pas, est classée autour des 20e places, en tout cas elle est derrière l'Iran, alors que l'Israël, jusqu'à aujourd'hui, essayait de se positionner comme la principale force militaire régionale. Aujourd'hui, on voit bien que ce n'est plus le cas. Donc toutes ces raisons-là font qu'effectivement, ça crée un degré d'hystérie supplémentaire au sein de l'establishment washingtonien, atlantiste, plus généralement occidental, et de ses affiliés, comme évidemment l'entité sioniste. Et c'est pour ça que l'Iran continue de subir ces attaques. Mais je pense que l'Iran est fermement préparé à tout cela. Et on voit bien que la capacité de résistance à tous les niveaux de la République islamique est plus forte que jamais.
Monsieur Tortiguet, est-ce que vous m'entendez, Monsieur Tortiguet ? Monsieur Tortiguet, est-ce que vous m'entendez ? Je crois que notre liaison avec Monsieur Tortiguet a été perdue. On va continuer avec vous, Monsieur Egorov. Notre émission. Monsieur Egorov, pensez-vous que les Européens vont faire le jeu du régime israélien en ce qui concerne en fait ces relations entre l'Iran et l'Union européenne?
Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, quand il s'agit des régimes des pays occidentaux et notamment européens, on ne peut pas parler d'une souveraineté véritable. Il n'y a pas de souveraineté au niveau de ces pays. Et ces pays-là vont continuer à faire le jeu. Enfin plutôt les prérogatives qui leur sont envoyées depuis Washington. Et quand il s'agit de Washington et de Tel Aviv, je ne pense pas qu'il y a besoin de faire des commentaires supplémentaires pour parler du niveau d'interaction qui existe entre ces deux entités. Donc il est évident que, compte tenu du fait que Washington continuera à fond à promouvoir les intérêts de son allié israélien, et les régimes occidentaux européens, en bon suiveur de Washington, continueront d'appliquer les prérogatives que leur ordonne l'establishment washingtonien. C'est une réalité triste pour les Européens, pour les pays européens, mais malheureusement, je pense qu'effectivement, c'est le cas. Je pense que malheureusement, c'est une réalité avec laquelle il faut compter.
Vous voulez dire, M. Egorov, c'est en fait de l'absence d'indépendance d'action par rapport à Washington, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on l'a noté, on l'a mentionné à plusieurs reprises dans les milieux politiques et médiatiques. Également, désormais, l'indépendance d'action de l'Europe par rapport, si vous voulez, à Tel Aviv, M. Egorov.
Oui, tout à fait, puisque tout est lié, comme on le voit, sachant que Washington, même quand il se retrouve dans l'isolation la plus totale au niveau de l'ONU, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, ne serait-ce que sur cet exemple-là, malgré tout, Washington continue obstinément à soutenir son allié israélien, et les Européens qui appliquent à la règle et qui font tout simplement un travail compétent au niveau international, évidemment, directement ou indirectement, appliquent également les volontés
Notre contact avec Toulouse, avec M. Pierre d'Ortiguier, a été rétabli fort heureusement. D'ailleurs, M. d'Ortiguier, on était en train de parler avec M. de Egorov. On disait que voilà, l'Iran a suffisamment de moyens sur le plan politique et militaire pour se défendre. Et M. de Egorov est d'avis que cet aspect militaire également est très important. Autrement dit, l'Iran a, si vous voulez, des capacités militaires défensives nécessaires pour se défendre. Est-ce votre avis également?
Oui, en effet. C'est-à-dire, si on en voulait la preuve, ce serait justement dans les réactions américaines ou les réactions, disons, de leurs clients ou de leurs anti sionistes et autres. C'est justement parce que l'Iran n'est pas faible qu'ils savent que la force est non seulement soutenue par d'autres pays, mais qu'il a une force intrinsèque et surtout une capacité technologique qui lui permet de résister et même de tenir donc devant le blocus qui lui est fait. C'est cela qui inquiète justement tous ceux qui veulent continuer une position de force périmée, bien sûr, en Orient. Et je crois que c'est là qu'il faut chercher ces manœuvres d'intimidation verbale, par exemple, et ces manœuvres, disons, qui n'aboutiront pas, bien sûr, de mise en accusation aux Nations Unies et autres. Tout ceci c'est quelque chose qui n'a pas de sens, je veux dire, qui sera arrêté même par le Conseil de sécurité, qui sera arrêté, disons, par l'immense majorité des pays qui composent cette Société des Nations nouvelles. Je crois que pour le dire en un mot, disons, on pourrait reprendre cette formule de Gaulle d'autrefois, que la seule politique qui vaille, c'est la politique qui tient compte des réalités. Or, la politique contre l'Iran ne tient pas compte de la réalité de l'Iran, de la réalité des alliances de l'Iran, et disons qu'il ne tient pas compte de la nécessité d'un équilibre qui est cherché, justement, en Orient. La résistance, l'axe de la résistance aujourd'hui, c'est justement l'effort de maintenir l'équilibre, de maintenir, disons, une réalité contre des gens qui voudraient écraser tous les régimes et qui voudraient, disons, établir un chaos permanent, comme les autres, comme certains parlaient de la révolution permanente. Eh bien, c'est ce que veulent certains milieux américains, les conservateurs, les néoconservateurs, etc. Je crois que tout ceci est résumé, cette politique néoconservatrice est résumée dans l'attitude diplomatique de l'Angleterre, également certains milieux en France, mais même en France et en Europe, comme vous l'avez bien dit avec M. Egorov. Eh bien, le Conseil européen et les États européens, je pense à l'Allemagne en premier, qui a toujours eu d'excellentes relations avec l'Iran, évidemment, sont opposés à cette politique. Les milieux réels, je veux dire, c'est ça, les milieux, non pas les milieux politiques forcément, mais les milieux réels, ceux qui font l'industrie, ceux qui font l'activité économique, sont opposés justement à cette sorte de guerre contre l'Iran, de guerre froide, si vous voulez. Ceci est considéré comme non seulement dépassé, mais dangereux même pour la santé du monde.
Et dangereux même pour les intérêts européens, M. d'Ortiguier, très rapidement.
Et bien sûr, justement, c'est dangereux pour les intérêts européens. C'est pour ça qu'il faut, avoir confiance, justement, dans ces réalités économiques, car elles sont ce que, justement, De Gaulle appelait des réalités qui font la seule politique valable.
Mmh. Un dernier mot pour conclure notre émission, M. Egorov, s'il vous plaît.
Moi, je pense que ce qu'il faut dire, et encore une fois, je rejoins entièrement ce qu'a dit M. d'Ortiguier, je pense que l'Iran n'est pas le genre de pays qui se laisse intimider par de quelconque chantage, fausse attaque, provocation en tout genre. Je pense que l'Iran continuera efficacement à défendre ses intérêts nationaux ainsi que les intérêts de ses alliés. Je pense que l'Iran continuera toujours aussi efficacement à bâtir et à renforcer son alliance avec ses principaux alliés internationaux comme la Chine et la Russie et plus généralement tous les partisans de l'ordre multipolaire mondial qui est devenu une réalité. Et je pense qu'au final, tous ceux qui aujourd'hui continuent d'essayer d'attaquer l'Iran et d'essayer de le déstabiliser, je pense que tout ce chaos se retournera contre
Merci
eux
beaucoup.
Avec toutes les conséquences qui en découlent.
Merci infiniment, M. Mikhail Egorov, analyste politique et spécialisé des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission, je crois, depuis Rabat, si je ne me trompe pas. Merci infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission. Et mes vifs remerciements vont également à Pierre d'Ortiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
l'idéologie et la pratique des courants takfiristes. Au Mali, plus de 40 civils ont été tués dans le nord par les terroristes takfiristes. Des hommes armés ont attaqué par surprise trois villages voisins situés dans le nord du pays, près de la frontière avec le Niger. Le bilan est tristement élevé. Plus de 40 civils ont été tués ce dimanche dans le nord du Mali lors d'attaques imputées à des terroristes takfiristes contre trois localités proches de la frontière avec le Niger, ont indiqué un responsable militaire et des élus locaux. Plus de 40 civils ont été tués dimanche par des terroristes dans les villages de Karou, Ouattanguna et Daoutegeft. Les terroristes sont entrés dans les villages et ont massacré tout le monde, a déclaré à l'agence France Presse un responsable sécuritaire. Toutes les sources interrogées se sont exprimées sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité. À Karou, 20 civils ont été massacrés. À Ouattanguna, 14 civils ont été tués. Et dans le hameau de Daoutegeft, d'autres civils ont été massacrés, a déclaré un élu d'une de ces localités. Les assaillants sont arrivés à moto et ont pris des villageois par surprise, a-t-il ajouté. Ces trois localités sont voisines. Le Mali, pays sahélien, pauvre et enclavé, est pris dans la tourmente sécuritaire et politique depuis 2012. Les insurrections indépendantistes et maintenant takfiristes, menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'organisation Daesh, ainsi que les violences intercommunautaires et les exactions de toutes sortes, y compris de la part des forces de sécurité, ont fait des milliers de morts civiles et militaires et des centaines de milliers de déplacés. Partie du nord du Mali, les violences se sont propagées au centre du pays, puis au Burkina Faso et au Niger voisin. En juin dernier, la France a décidé de réduire considérablement la voilure de l'opération Barkhane à la suite d'une tentative de coup d'État. Quelques semaines plus tard, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture de trois bases au nord du pays au début de l'année 2022. La justice burkinabé a condamné mardi à 20 ans de prison deux terroristes takfiristes burkinabés, auteurs d'une attaque en 2018 contre une école dans le nord du Burkina Faso au cours d'un procès placé sous haute sécurité. Les deux inculpés, âgés de 38 et de 29 ans, qui se présentent comme cultivateurs et éleveurs, étaient jugés devant la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, complicité de terrorisme et destruction volontaire de biens. Selon le parquet, les deux inculpés, membres combattants du groupe armé Ansar ul-Islam, ont le 2 mai 2018 attaqué et incendié l'école primaire de Bafina, localité située dans la province de San Matinga, dans la région du centre-nord. Accompagnés de quatre autres personnes, ils avaient également incendié le domicile du directeur de l'école avant d'emporter deux motos. À la barre, les deux accusés ont reconnu les faits, expliquant s'être rendus à Bafina pour attaquer le groupe d'autodéfense du village. Ils ont ensuite décidé de cibler l'école primaire et les enseignants parce que les enseignements qui y sont donnés sont contraires aux dispositions de la charia prônée par le groupe takfiriste Ansarul Islam. Reconnus coupables, ces deux terroristes ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de 20 ans, dont 15 ans de sûreté. Ils devront également payer de dommages et intérêts de près de 4 millions de francs, environ 6 000 euros. Lundi, la chambre correctionnelle du pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme a ouvert les premiers procès pour terrorisme au cours desquels 10 dossiers vont être jugés jusqu'au 13 août. Très actif dans le nord du Burkina Faso, Ansarul Islam a été créé en 2016 par Ibrahim Malam, un prêcheur burkinabé originaire de la province d'Oussoum, région du Sahel. Le groupe a revendiqué plusieurs attaques contre l'armée burkinabé, dont la plus meurtrière avait tué 12 soldats en décembre 2016, avant de s'affilier à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques terroristes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du Nord et de l'Est, proches du Mali et du Niger, également confrontés aux actions meurtrières des takfiristes armés. Ces attaques, souvent couplées à des embuscades et attribuées aux groupes takfiristes affiliés au groupe Daesh et à Al-Qaïda, ont fait plus de 1500 morts et contraint plus de 1,3 million de personnes à fuir leur foyer. Les pays d'Afrique australe ont officiellement lancé lundi une mission militaire régionale visant à aider le Mozambique à lutter contre les insurgés takfiristes et reprendre le contrôle de sa province septentrionale, riche en gaz. Le président mozambicain et son homologue botswanais ont inauguré la mission de la Communauté de développement d'Afrique australe au Mozambique lors d'une cérémonie à Pemba, dans le nord du Mozambique. En mars, les terroristes takfiristes avaient attaqué Palma, base des opérations industrielles du géant de l'énergie français Total, forçant le groupe à suspendre ses travaux d'un projet gazier de 20 milliards de dollars. En juillet, le Rwanda a envoyé 1000 soldats pour renforcer l'armée mozambicaine. Une semaine plus tard, les États membres du bloc des 16 nations de la Communauté de développement d'Afrique australe ont commencé à déployer des troupes. Soutenues par les troupes rwandaises, les forces mozambicaines ont annoncé dimanche avoir chassé les terroristes de Mocimboa, la ville portuaire, devenu depuis un an le bastion des terroristes locaux, connu sous le nom de Al-Shabaab et affilié au groupe Daesh. Le ministère mozambicain de la Défense a ensuite à son tour annoncé que les troupes mozambicaines et rwandaises avaient repris le contrôle de la localité dimanche matin. Elles contrôlent désormais les bâtiments officiels, le port, l'aéroport, l'hôpital et d'autres infrastructures clés, a raconté un porte-parole du ministère pendant une conférence de presse.